À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question du Saint-François de Sales du 19e siècle. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. C'est un évêque comme Saint-François de Sales. Saint-François de Sales était évêque de Genève, en Suisse, et lui a été évêque auxiliaire à Poitiers. Mais c'était surtout un écrivain spirituel, un prédicateur, un directeur spirituel. On a dit de lui que c'était le plus grand directeur spirituel des âmes au 19e siècle. S'il s'agit d'un homme qui est né à Paris, plutôt dans l'incroyance, Monseigneur Charles Gay, G-A-Y. Monseigneur Charles Gay, qui est mort en 1892. En dépit de sa réputation immense, il était adulé, estimé, on n'en parle plus. Ça me rappelle, je vous ai parlé de Monseigneur Dulst, qui l'a connu aussi. Il ignorait Monseigneur de Ségur, dont je vous ai parlé le 2 septembre, le fils de la comtesse de Ségur, dont on ne parle presque plus. Mais une dame vient de publier un livre sur la comtesse de Ségur, où il est question, évidemment, du fils de la comtesse de Ségur, Monseigneur de Ségur. C'est une occasion d'en parler. Et on peut dire que Monseigneur de Ségur, Monseigneur Charles Gay, plutôt, il a beaucoup lu et étudié la Bible d'abord, et puis les grands auteurs chrétiens, puis jusqu'à son époque. Et il a aussi lu la littérature, et puis il est très, très intéressant quand on le lit, particulièrement dans sa correspondance, parce que dans sa correspondance, il est un directeur spirituel. Et là, il y a une substance, quelque chose de très, très riche. On peut dire que là, son être intérieur, on dirait, jaillit, avec plus de liberté. Et puis, il a converti énormément de gens. Il convertit ceux qui l'approchent plus encore par ce qu'il est que par ce qu'il dit, disait-on de lui. Et il était né artiste, il avait été compositeur, il avait étudié la musique avant de se convertir. Et il dit, j'ai quitté la musique, mais la musique ne m'a jamais quitté. C'est donc un homme sympathique. C'était un homme aimable, mais il y avait chez lui, étant donné sa sainteté relative, entre les qu'on le considérait comme un saint, chez cet homme du 19e siècle, inspiré par les sulpiciens, bien qu'il n'était pas sulpicien, une espèce de froideur que certains catholiques acquièrent, comme ça, des membres du clergé, ça leur arrive, une certaine froideur apparente, qui tient comme à une timidité naturelle. Ce sont souvent de très charmants causeurs. Quand on les approche, ils sont sympathiques, ils peuvent avoir même le rire facile. Oh, il n'y a pas de trivialité chez ces hommes-là, mais ici, il peut y avoir une espèce de tristesse superficielle devant la misère humaine, parce qu'ils confessent beaucoup, ils dirigent les âmes. Ils sont très sensibles à la reconnaissance des gens autour d'eux. Et il était comme ça, lui, Monseigneur Gay. Il acceptait volontiers aussi l'influence de ses amis, à qui on doit peut-être son principal ouvrage que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui est un grand ouvrage spirituel sur les vertus, et il ne l'aurait pas achevé sans l'aide de ses bons amis. D'ailleurs, il était bon, par tous les moyens de son pouvoir. Il donnait généreusement son argent, et il donnait à tout le monde. Monseigneur Charles Gay, par-dessus tout, vivait d'une vie intérieure vraiment intense, on le voit dans ses lettres, on le voit aussi dans ses écrits, et pour lui, là, la foi en Jésus-Christ était bouleversante. C'est pas seulement une adhésion de l'esprit à des vérités plus ou moins abstraites, là. Non, c'est une confiance profonde en Dieu, une confiance d'enfant en la bonté d'un père. C'est l'année du père, cette année, dit-on. Eh bien, sa confiance d'enfant en la bonté de Dieu, son Père, est immense et son oraison ne consiste pas à méditer. Il y disait voir, me reposer, aimer, prier. C'est tout. Et c'était le summum de sa joie. Et c'est ce qu'il exerçait aussi pendant son Eucharistie, pendant la messe. Il s'est tellement accoutumé à voir Dieu en tout que rien dans les événements ne le déconcerte. On trouve en lui une joie qui ne s'épuise jamais, une confiance que rien n'altère et des espérances que tout illumine et fortifie. Puis il est mort le 18 janvier 1892, je vous en reparlerai tout à l'heure, et le jugement qu'on doit porter sur lui est qu'il a été un très saint prêtre, un grand théologien, pour son époque, un des plus grands du siècle dernier, dit-on, et en tout cas le plus utile à lire des théologiens du siècle dernier. Il n'est pas tout à fait exagéré de l'appeler, comme le dit un jour à son vif étonnement un de ses correspondants, le Saint-François de Sales du 19e siècle. Il y a un bénédictin dont Bernard de Bois-Rouvray qui a écrit sa vie, Monseigneur Gay, sa vie, ses œuvres en deux volumes. C'est paru en 1922 à Tours. On trouve une liste complète de ses ouvrages. C'est énorme. Et des articles qui ont été écrits sur lui, d'ailleurs. Enfin, on peut dire que son œuvre est certainement une des plus importantes et des plus utiles que nous ait laissé le 19e siècle. Et qui était donc ce Charles Gay? Charles Louis Gay est né à Paris le 1er octobre 1815 dans une famille bourgeoise, assez à l'aise. Il grandit dans l'indifférence puis l'ignorance religieuse complète. Même s'il était envoyé dans un collège plus ou moins catholique, le collège Saint-Louis, à Paris, ça lui permet de faire sa première communion en 1827, mais ça change rien. Un peu comme les enfants qui font leur première communion aujourd'hui, et qui sont confirmés ici, du moins dans la région de Montréal, ou à Montréal, c'est plutôt pénible. Il n'y a pas de suite. À 14 ans, d'ailleurs, Charles Gay, le petit bonhomme, cesse toute pratique religieuse, il suit le goût du jour. Puis là, il s'amuse. Déjà, ces petits Parisiens font des vers comiques, et puis il rappelle qu'il faisait des... Il rimaillait, comme on dit en langage là-bas, contre les jésuites. C'est son plaisir. Puis il se prend d'enthousiasme pour le mouvement romantique. Mouvement romantique, à l'époque, à tout point de vue, musique, théâtre, poèmes, les romans. Ben, ceux qui dirigent ça se détournent de l'Église et ça l'entraîne. Et puis il vit en bonne conscience dans l'indifférentisme. Il est jeune encore, il est adolescent. Il soutient que toute occupation absorbante est nuisible à son développement, au développement de ses facultés. Il veut être libre. Alors, il fait une bonne année d'études philosophiques. Et tout à coup, en réfléchissant comme ça au sein de la philosophie, il se révèle un peu à lui-même, puis se découvre artiste, probablement philosophe peut-être. Et puis là, il lit, écoutez bien, ça c'est surprenant, il lit, on ne sait pas pourquoi, la Somme théologique de saint Thomas. La Somme théologique de saint Thomas. Et il en fait un résumé même. Ces jeunes garçons recevaient une formation, évidemment, peut-être supérieure à celle qu'on reçoit aujourd'hui, dans certaines de ces institutions à Paris, pour faire comme ça. Et puis, ils trouvent un peu de lumière en lisant un roman. C'est assez surprenant. Il étudie le problème qui est posé par un roman qui est intitulé « Volupté ». Le titre l'avait attiré. « Volupté » de Sainte-Beuve. C'est pas une sainte, là. c'est le fameux auteur Sainte-Beuve, évidemment. Qui est paru, il y en a qui disent en 1833, d'autres en 1834, enfin, peu importe. Et cette force qui a conduit le héros de ce roman « Volupté », le roman de Sainte-Beuve, vers l'Église, le héros se dirige vers l'Église, eh bien, Charles Gay découvre que cette force que le héros du roman a, eh bien, elle lui a été donnée, il la sent en lui. Il est désireux de connaître la loi de tout l'univers, de son existence à lui, et de l'existence des gens autour. Il finit par conclure que la loi de l'univers, la loi de son corps, la loi de son être, c'est l'unité, avec un U majuscule, et que l'unité est Dieu. Et là, il considère que Dieu est l'unique intelligence, l'unique, oui, l'unique harmonie, l'unique beauté, et qui vient lui-même sauver le monde du péché en envoyant son fils. Alors il se fait chrétien de plus en plus. Et tandis qu'il se consacre à la musique, toujours qu'il adore, eh bien les conférences du père Henri Lacordaire, dont je vous ai déjà parlé, en 1835, puis l'action discrète du professeur de chant de sa sœur Céline, qui est une dame Hennel, eh bien, Lacordaire puis Madame Hennel lui enseignent que ses raisonnements sur toutes sortes de choses, là, puis qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement, quelles sont les convenances, et tout, puis ces raisonnements que l'on se fait pour notre action, ça vaut pas le moindre mouvement de charité. Il l'attire vers des actes de charité. Et là, il reconnaît, dans sa conduite, les contradictions, puis les insuffisances surtout. Comment faire des actes de charité véritables? Alors, en mai 1836, à 20 ans, il fait une confession générale à un curé, un très bon curé, le curé de Passy. Puis là, durant les vacances de 1837, l'année suivante, il croit entendre un appel vers le sacerdoce. Ça va surprendre ses parents et ses amis, hein, on peut l'imaginer. Alors, on le met en contact avec le bienheureux Frédéric Ozanam, que vous connaissez, je vous en ai parlé le 15 mai 97. Je le signale parce qu'il y en a qui veulent avoir les cassettes dans ce temps-là, hein? Frédéric Ozanam. Vous connaissez, il est mort à 40 ans, 41 ans, là, en 1853, fondateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et là, il acquiert auprès d'Ozanam la conviction que tout système politique ou social qui ne tient pas compte de la foi est caduque. Nos systèmes politiques, nos systèmes sociaux, à Montréal, au Québec, au Canada, qui ne tiennent pas compte de la foi est caduque. Regardez, on peut avorter nos enfants jusqu'à la naissance ici au Canada. Inconcevable, il n'y a pas de loi là-dessus. Et est-ce qu'on a des lois sérieuses pour préserver la formation religieuse de nos enfants pour qu'ils ne se suicident pas et qu'ils sachent pourquoi ils vivent? Est-ce qu'on leur enseigne ces grandes traditions chrétiennes qui sont ici les traditions de notre peuple et les traditions de l'Occident qui font qu'on peut reconnaître ce que c'est quand on entre dans une église, quand on écoute une cantate de Bach, quand on lit Dante, etc.? C'est catastrophique, la culture tombe en ruine. Et dès lors, lui, là, Charles Guay juge les événements, les personnes, les doctrines en fonction de la question religieuse, et pour lui, la foi est le seul vrai bien de l'homme et de la société, c'est la conclusion à laquelle il arrive. Il en est absolument convaincu. Il ne lâchera pas. Alors, le jeune Charles Guay décide de devenir prêtre, et malgré la déception de ses parents, ben, il part pour Rome en octobre 1839, afin d'y recevoir la formation théologique nécessaire, évidemment. Et sa santé, qui n'est pas très forte, l'oblige à regagner la France. Et à suivre, comme externe, ça c'est extraordinaire à l'époque, comme externe, en octobre 1840, l'année suivante, donc un an plus tard, les cours du séminaire de Saint-Sulpice. Il ne pensionne pas dans le séminaire, c'est exceptionnel. Je crois, du moins. Il y rencontre Joseph Foulon, puis François Richard, qui sont de futurs archevêques de Lyon et de Paris. Il y rencontre Gaston de Ségur, dont je vous ai dit, je vous ai parlé le 2 septembre, le fils de la comtesse de Ségur. Il rencontre aussi Ernest Renan, qui fait ses études là, à l'époque. Puis il est ordonné prêtre, en 1845. Alors, aucun ministère précis ne lui est offert au lendemain de son ordination. Pourquoi? Parce que, d'abord, sa grande fatigue qui lui interdit d'être vicaire et même d'étudier. Puis aussi, il y a beaucoup de prêtres. Mais pendant ces années, bien, il n'arrête pas de réfléchir. Il y a des événements politiques et sociaux du moment aussi qui a son évolution puis s'engage un peu dans ces questions-là. Il n'est pas, on peut dire, un homme de gauche. Charles Guay, qui est assez libéral de tendance, jusqu'ici pense, insensiblement, puis de façon assez délibérée, vers une orientation toute différente. Ce serait trop long de vous exposer ça. Vous savez, il est en faveur, mettons, des états pontificaux du pape. Il se range très fidèle au Saint-Siège, de façon peut-être si forte que celle des évêques s'oppose à lui à un moment donné. Mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est sa spiritualité et qui est très belle. C'est ce qu'on va aborder. Hein? Et c'est difficile de mesurer ce qui s'est passé vraiment. Jusqu'en 1849, il fait toutes sortes de pèlerinages. Il va à la Grande Chartreuse. Près de Grenoble, la Grande Chartreuse, que vous connaissez, j'imagine. Il va à Assise, où vous êtes probablement allés, plusieurs d'entre vous, à Lorette. Oui, la maison de Lorette, puis à Rome, évidemment. Et puis, il assure un peu de catéchisme à la paroisse, des missions étrangères, la rue du Bac, près de la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Là. Puis, il reçoit de Lacordaire la charge de diriger la communauté des Dames de l'Assomption. Et je dois signaler que vers le mois de juin, le 1848, il va se reposer dans la propriété de sa sœur Céline, mais il va lui arriver quelque chose dans le Limousin. À la suite d'une visite à la prieure du Carmel de Limoges, il éprouve le désir, plus ou moins monastique, là, de se fixer lui aussi, dit-il, c'est ce qu'il écrit, dans cet état de dégagement et d'ineffable paix, où la volonté, l'esprit, l'être tout entier sont absolument livrés à Dieu, un seul l'attire. Mais il n'en fera rien, il va rester dans le clergé séculier. Et de 1848 à 1852, l'abbé Charles Gay vit avec quelques confrères, dont justement l'abbé Gaston de Ségur. Il vit en communauté la rue Cassette, où j'ai souvent logé, moi, à Paris. J'aime bien ça, la rue Cassette, c'est pas loin de tout. Et c'est juste à côté de la belle chapelle des Carmes, où les prêtres ont été assassinés en quantité incroyable. Lors de la Révolution française, je vous ai déjà parlé de tout ça. Hein. Puis, en groupe, ces jeunes prêtres appliquent les principes spirituels qu'ils ont reçus à Saint-Sulpice. Et on ajoute des réunions du mardi où, bien, au séminaire du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le séminaire qui a été fondé par un juif converti, le père François Liberman, le bienheureux François Liberman, qui est mort en 1852 et dont je vous ai aussi parlé. Alors ensemble, on discute de détachement puis de service des pauvres. Et Charles Gay, qui est toujours un prêtre libre, on peut dire, garde le plus solide souvenir de cette communauté de prêtres fervents. Ça a servi de soutien à son activité de jeune prédicateur. Les instructions de retraite qu'il a données au Carmel de Limoges, là, ont obtenu un grand succès, si bien qu'il prêche des carêmes un peu partout. Puis malgré le succès, il éprouve le sentiment d'un vide profond, puis se demande s'il n'est pas appelé à la vie religieuse. Et là, il va y arriver quelque chose de merveilleux. C'est une visite au curé d'Ars, le Saint-Jean-Marie Vianney. Il fait cette visite en septembre 1856, et tout ça, ça se conclut par une parole du curé qui dit « Allez vers l'évêque de Poitiers, Monseigneur Pie ». Alors, il fait une retraite à ce qu'on appelle la solitude à Issy-les-Moulineaux. C'est là où sont les sulpiciens, qui font, dit-on, leur solitude avant de s'engager pour devenir sulpicien. Et ça s'achève par un avis formel de son directeur spirituel. La volonté de Dieu est que j'aille à Poitiers auprès de Monseigneur Pie. Alors, auprès de Monseigneur Louis-Édouard Pie, qui est mort en 1880, cardinal d'ailleurs, qui est évêque de Poitiers, son activité considérable et sa vie spirituelle profonde, soutenue. L'abbé Charles Gay vit dans un effort constant de recueillement, de contemplation. Il y a quelque chose de monastique en lui tout à coup. Il se laisse dominer par aucun sentiment quand il lui semble que la vérité qui est Jésus-Christ est en cause. Hein? Il souffre d'une certaine incompréhension d'ailleurs, comme il fait souffrir un peu les autres en ne cédant jamais. Il a des idées, il y tient. Et tel apparaît Charles Gay pendant près de 25 ans. Ses idées, il y tient. Il est vicaire général, puis évêque auxiliaire à Poitiers, là. Et Monseigneur Charles Gay partage, en les nuançant parfois, les prises de position politique, sociale et doctrinale de Monseigneur Pie. Alors, parce que les questions politiques étaient très importantes, il y avait des révolutions, il y avait des attaques contre l'Église, la suppression des écoles confessionnelles, etc., toutes sortes de choses, suppression des ordres religieux. Il est, comme son évêque, admiré par les uns puis rejeté par les autres. Défenseur de la foi contre le naturalisme, le libéralisme, Monseigneur Charles Gay prépare pour son évêque, l'évêque de Poitiers, les textes de ses lettres synodales sur les principales erreurs du temps présent, comme il dit, et puis toutes sortes de choses, en réponse, mettons, à l'avis de Jésus de Renan. Renan, qui est son ancien confrère, qui avait attaqué la divinité de Jésus, tout ça, dans l'avis de Jésus. Il cache pas sa joie d'être en parfaite communion avec le pape, avec le Saint-Siège, ce Monseigneur Gay. Et dès 1868, il est appelé à Rome comme théologien du futur concile du Vatican. Et puis, survient les années, l'année terrible de 1970-71 avec la guerre et tout ça. Et ça le laisse douloureux et les imminents services donc que Charles Guy a rendus à son évêque. Mais ça incite son évêque, Mgr Py, à le proposer pour l'épiscopat. Puis après 3 refus successifs, mais Mgr Guy finit par accepter, puis il devient auxiliaire, évêque auxiliaire, tout en poursuivant ses activités. Alors là, l'évêque de Poitiers, qui est devenu cardinal, Mgr Py, meurt le jour de la Pentecôte, 1880, puis il est remplacé par Mgr Henri Bello des Minières, avec lequel il s'entend pas tellement. Alors il s'en sépare et Mgr Guy va résider à Paris, puis c'est là qu'il va écrire et diriger les âmes et devenir ce Saint-François de Sales du 19e siècle. Bon, il est déjà pas mal, mais il va le devenir vraiment. Alors là, il exerce toutes sortes de ministères, il poursuit la composition de ses œuvres spirituelles. Sa paix intérieure n'a cependant pas été troublée par cette agitation-là. Il demeure supérieur du Carmel, du Dora, au diocèse de Limoges. Oui, parce qu'il y avait comme ça des évêques qui pouvaient être supérieurs d'un Carmel et aider les religieuses. Dans ce temps-là, ça se faisait. Il visite souvent les paroisses des faubourgs. Il se désole des progrès du libéralisme. Il va vers les pauvres. Et puis, pour lui, cette pauvreté, c'est la négation de la royauté sociale de Jésus-Christ. Pour lui, les pauvres ont droit de vivre et d'être debout. Et il va mourir à Paris, comme je vous ai dit, le 18 janvier 1892. Et c'est par de courtes publications de circonstances, on peut dire que Charles Guy s'est d'abord fait connaître, comme écrivain. Il y a des consultations théologiques, des conseils à des religieuses, particulièrement à des carmélites qu'il aime beaucoup, des allocutions, des mises au point dans la presse. Et il se révèle au public que sur le tard, il a beaucoup, beaucoup écrit. Mais on peut surtout mentionner son principal ouvrage, qui est « Vie et vertu chrétienne », qui en fait de lui un saint François de Sales. Cet ouvrage qui devait être tout simplement que le recueil des espèces de cours ou instructions qu'il avait données aux carmélites de Limoges en 1849. Ça a pris des dimensions puis une importance telle que l'auteur y résume pratiquement sa doctrine spirituelle. Et déjà, en 1865, il confie à un ami, il dit « J'avance mon traité de la vie chrétienne. Vous n'imaginez guère ce que c'est devenu, une vraie petite somme du mystère de Jésus-Christ et partant de l'ordre surnaturel. Je m'attends un peu à être chicané par quelques partisans exclusifs de telle ou telle école. J'ai passé droit à mon chemin quand même. Ou du moins, je l'espère, appuyé sur la Sainte Écriture. Voyez-vous, il est appuyé sur la Bible. Et suivant pas à pas ce qui me semblait être Jésus-Christ. » Alors, Mgr Charles Guy veut présenter donc une théorie générale de ce grand projet de Dieu sur le monde. Et de ce qu'on peut appeler la science de la sainteté, c'est ce qu'il dit dans sa préface, la science de la sainteté. En rendant Jésus-Christ sans cesse présent à la conscience des chrétiens. Les sources, je vous l'ai dit, de Charles Guy, c'est la Bible, préférant Saint Jean, Saint Paul. Mais aussi les pères de l'Église, Ignace d'Antioche, Polycarpe, Justin, tout ça, des gens dont je vous ai parlé, Clément d'Alexandrie, je vous ai parlé de tout ce monde-là, hein. Et puis, Charles Guy doit beaucoup aussi aux auteurs spirituels du 17e siècle, à Bérulle, dont je vous ai parlé, à Ollier, etc. C'est tout du monde dont je vous ai parlé. Puis, l'accueil du public est chaleureux, on crie à merveille, et je vais vous dire jusqu'à quel point son ouvrage sur les vertus, la vie et les vertus chrétiennes, a remporté un succès incroyable. Et alors, je reviens donc à Mgr Guy. L'accueil du public est phénoménal, hein, c'est chaleureux. Non seulement dans les communautés religieuses puis le clergé, mais aussi dans le laïcat, chez les laïcs. Demain, je vais vous parler d'ailleurs de la spiritualité des laïcs. Et les laïcs sont contents de lire à cette époque, il y a plus d'un siècle, ces livres. Il y a 2 recensions qui ont été particulièrement élogieuses et retentissantes. Il y en a une dans la grande revue des Jésuites, les Études, ou Études tout simplement. Et puis une autre dans le journal très réputé, Le Correspondant. Et on dit que Charles Guy, comme le chef de... On considère Charles Guy comme le chef de file des écrivains spirituels du siècle. Il sait unir le naturel et le surnaturel, la nature et la grâce, avec une maîtrise que n'avaient pas ses devanciers. En un temps où les études théologiques laissaient à désirer puis et ne vivifiait que médiocrement les écrits spirituels, on dit que Charles Gay fait jaillir des profondeurs du dogme catholique une lumière qui fait avancer les âmes dans les voies de la perfection. Il y a même quelqu'un qui l'aimait pas tellement à cause de ses attitudes politiques, qui renchérit puis qui dit qu'il est le plus grand mystique du 19e siècle. Et on peut penser que l'ouvrage classe son auteur parmi, en somme, les grands théologiens spirituels. Et 1874, l'année de l'apparition, demeure donc une date dans l'histoire de la spiritualité en France au 19e siècle. Et c'est ce qu'on peut lire dans le dictionnaire de spiritualité, ce grand dictionnaire. Faut bien penser que dès qu'il aborde la prédication, Charles Guy se manifeste rapidement docteur et orateur, disait-on. Il instruit, il touche. C'est un homme qui savait révéler Jésus-Christ, qui savait révéler l'amour de Jésus-Christ, qui savait révéler la vie de Jésus-Christ. Et c'est Mgr Dulce, dont je vous ai déjà parlé, là, qui caractérise justement Mgr Gay comme orateur. Il dit « Préparer de longue main, par une lecture familière de la Bible, avec les saints-pères de l'Église aussi, avec les maîtres de la théologie de la spiritualité, eh bien Charles Gay, le prédicateur, chez Charles Gay, est né du théologien. » Et on a dit aussi de lui, à son oraison funèbre lors de sa mort en 1892, qu'il était le docteur du mystère de Jésus-Christ. Et dans la préface du premier tome de Vie et Vertu chrétienne, Mgr Gay nous dit comment il a été amené à écrire, à publier cet ouvrage. Il écrit « Il renferme ce que durant bien des années, j'ai enseigné ou rappelé aux âmes qui m'étaient confiées, m'efforçant d'éclairer leur foi, d'encourager leur espérance, d'aviver leur amour et sanctifier leur vie. » Sanctifier leur vie. Ces âmes étaient confiées, plus particulièrement à l'abbé Gay. C'était surtout évidemment des religieuses du diocèse, plus spécialement des carmélites. Mais l'auteur pense que réunis ensemble, c'est ce qu'il écrit, ces pages formerait une sorte de théorie générale du projet de Dieu sur le monde et de ce qu'on peut appeler la science de la sainteté, c'est-à-dire un genre de spiritualité. On peut définir en effet la spiritualité comment? Vous en parlez demain, la spiritualité des laïcs. Alors, la définition, ici je trouve, dans un texte de Louis Lochet, paru il y a bien longtemps, un ensemble de doctrines, méthodes et exercices qui sont proposés par des maîtres spirituels dans le but de développer puis d'épanouir chez l'homme, chez la femme, en ce monde, encourager ses relations avec Dieu et la création selon le plan divin et sous la conduite de l'Esprit-Saint. Mgr Gay, d'ailleurs, écrit « La vie chrétienne, c'est cette vie excellente qui, ayant en Dieu son exemplaire et son principe, devient en Jésus-Christ et par Jésus-Christ le modèle de la vie humaine. Forme sublime et pleine d'attrait, dit-il, mais avant tout impérieuse, qu'on ne saurait s'empêcher refuser de subir et qu'on ne répudie point définitivement sans se perdre pour l'éternité. » Il ne va pas de main morte, hein? En somme, les vertus en sont l'épanouissement, parce que l'ouvrage, ça s'appelle « Vie et vertu chrétienne ». Les vertus en sont l'épanouissement et le signe indispensable. La vie et les vertus chrétiennes, c'est donc en somme l'unique nécessaire. Il écrit, et c'est très beau, « Ce que nous avons cherché par-dessus tout, c'est à rendre Jésus-Christ présent dans toutes les parties de ce livre. La personne de Jésus ne doit jamais être isolée de sa doctrine. On ne saurait trop le redire. La fin de toute la loi morale, de tous nos devoirs, par conséquent, la fin, le but, là, de tous nos travaux, de nos projets, la somme ou le résultat, si vous voulez, de notre perfection et de notre sainteté, ou l'ensemble, ce qui fait notre perfection et notre sainteté, c'est notre union vivante avec Jésus, dit-il. Alors, quand on entend des sermons à l'occasion, c'est plutôt rare, mais ça arrive, hein, où Jésus, on dirait, est absent. La personne de Jésus est absente. On parle d'idées, des idées. La même chose dans des cours de théologie ou dans des livres. C'est pas son genre. Lui, c'est l'union vivante avec Jésus. Les fondements théologiques de sa spiritualité, ben, Mgr Gay le trouve dans les épîtres de saint Paul et particulièrement dans le premier chapitre de la lettre aux Colossiens, qui résume la formule de l'auteur. L'auteur le place en exergue au début de ses ouvrages de spiritualité. Puis ça va faire sa devise épiscopale quand il va devenir évêque. Omnia, c'est en latin, omnia in omnibus Christus. Ça veut dire, vous comprenez peut-être, le Christ tout en tout. Le Christ tout en tout. Tout le Christ en toute chose. Or, c'est du Père que l'apôtre entretient tout d'abord les fidèles du Colosse. En cette année du Père, c'est le temps d'en parler. Plus que jamais. Toujours, de toute façon. J'ai été chanceux, je suis entré dans un monastère bénédictin très jeune, et on m'a enseigné cette adoration, cet amour, cette confiance au Père. Tout de suite, c'était le début, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, c'est merveilleux. Le texte de saint Paul aux Colossiens, aux fidèles de Colosse, là. À vous, grâce et paix de par Dieu notre Père. C'est ce que saint Paul leur dit, puis il continue. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en pensant à vous dans nos prières, depuis que nous avons appris votre foi dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard de tous les baptisés, et en raison de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Il souhaite, Mgr Gay, puis saint Paul, surtout, que les Colossiens parviennent à une parfaite connaissance de ce Père. C'est ce que Mgr Gay veut avec saint Paul. Qu'on connaisse le Père, qui nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. C'est tellement riche, ces épîtres de saint Paul. Alors voilà la vie chrétienne, dit Mgr Gay. Elle est la vie essentielle et intérieure de Dieu, donnée d'abord au Christ en excellence, dans l'adorable mystère de son incarnation, qu'on vient de fêter, là, et donnée ensuite à tous par le Christ Jésus, comment dans le mystère mille fois béni de son immolation, où il s'immole dans l'amour. Elle est l'amour intime de Dieu s'épanchant sur la création par le cœur humble, doux et tendre de Jésus. Toute la création est recouverte de l'amour qui jaillit du cœur de Jésus. Il ajoute enfin, cette vie, c'est vraiment Jésus-Christ lui-même, celui qui a dit « Je suis la vie ». Je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Et ce sont toutes des paroles de Jésus. Celui dont saint Paul écrivait dans l'Épître aux Philippiens, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Dans l'Épître aux Galates, saint Paul ajoute, « Je vis, non plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Puis dans l'Épître aux Colossiens, il dit, « Oh, c'est si beau. Lorsque le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » On retrouve ça dans les textes de Mgr Gay au 19e siècle. Alors, c'est cette vie chrétienne telle qu'elle est vécue sous la conduite de l'Esprit-Saint que Mgr Gay nous entretient dans son ouvrage immense. Et il le fait en partant de la parole du Christ dans l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. » Je l'ai cité hier lors de la conférence parce que c'est la parole clé de la vie de Paul Misraki, ce compositeur de chansonnettes et de musique de film converti au catholicisme d'une façon magnifique. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre sa maison, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Que c'est beau, ces textes. Cette proposition, dit Mgr Gay dans son ouvrage sur les vertus, dans le tome 1, page 34, il dit, cette proposition si discrète et à la fois si pressante que Jésus fait de lui-même à la créature libre, c'est le préambule régulier de la justification surnaturelle. Et le fond et la substance de cette justification, c'est l'entrée puis le séjour de Jésus dans cette créature. Jésus nous habite, Dieu nous habite. Allons pas dans les religions orientales pour s'imaginer que Dieu va nous habiter. C'est la foi catholique profonde. Dieu est en chacun de nous. et nous appelle, et nous motive, et nous pacifie, et nous fait grandir, et nous fait prier. Monseigneur Guier dit, quand il entre, la vie entre, et l'âme naît à Dieu. Prenant séjour en nous, il s'y unit à Dieu et devient, comme l'écrit saint Paul, notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. On trouve ça dans l'Épître aux Hébreux. Que c'est beau, notre foi, hein? Jésus entre, dit Monseigneur Gay, Jésus entre dès qu'on lui ouvre. On lui ouvre dès que, croyant en lui, on commence de l'aimer d'un amour sincère et suprême, suprême. Et dès qu'il entre, l'union se fait. C'est un vrai mariage, un vrai mariage. C'est une noce. Il ajoute, qui dira cette union? Qui l'expliquera? Les unions de la terre n'y sont point comparables, dit Monseigneur Gay. Et pour en trouver l'analogue, il faut remonter à cette union des deux natures du Christ qui fait le nœud de l'incarnation, hein, Dieu fait homme. C'est tout l'être de Jésus qui épouse ici l'âme tout entière, dit Monseigneur Gay, et même l'homme tout entier. Si l'âme se livre sans réserve, Jésus se verse en elle et la remplit. La vie entière de l'époux devient celle de l'épouse, c'est nous l'épouse. Ses états, ses mystères, ses titres, ses excellences, ses vertus, ses actions, ses souffrances, ses mérites, il donne et livre tout. C'est comme une fortune indivise, dont chacun des conjoints est réellement le maître, quoique l'épouse n'en use que dépendamment de l'époux, dit-il. Et c'est là, précisément, le fond caché sous ses paroles divines. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ils s'unissent, dit Monseigneur Guy, à ce point qu'ils deviennent l'un à l'autre une communion et un festin. Ils passent l'un dans l'autre, et l'Évangile dit qu'ils y demeurent. C'est dans saint Jean, chapitre 6. Et Jésus n'est pas seul, poursuit Monseigneur Gay. Seconde personne de la Trinité, il ne peut se séparer ni du Père qui l'engendre, ni du Saint-Esprit qui procède des deux. Où est l'un des trois? C'est une nécessité qu'ils y soient tous les trois ensemble. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, mon Père et moi, et notre commun esprit, quoi, et nous établirons en lui notre séjour. La Trinité est en nous. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes dans la joie. Parfois, nous sombrons un peu dans le désert du désespoir de notre petite solitude dans nos appartements. C'est pas toujours facile. Mais au moins, nous avons cette grande joie de savoir que Dieu nous habite. Alors, le Père et l'Esprit Saint qui accompagnent Jésus, dit Monseigneur Gay, ne sont pas là comme de simples témoins de sa présence, de ses dons et de ses œuvres. Ils opèrent, les trois personnes de la Trinité qui ne forment qu'un seul Dieu, ils opèrent avec lui et se donnent comme lui, chacun selon le caractère qui lui est propre. Par Jésus et en Jésus, nous entrons en relation avec l'un et avec l'autre, et chose aussi vraie que merveilleuse, dans la même relation qu'ils ont avec Jésus. Par Jésus et en Jésus, nous devenons vraiment et réellement fils de Dieu. Et nous avons le même droit que lui d'appeler Dieu notre Père. Qu'un cœur de mère. Hein? Il cite la parole de saint Jean, au chapitre 20, « Je vais à mon Père, qui est votre Père. Je vais à mon Dieu, qui est votre Dieu. » Le Père, dit Monseigneur Gay, l'engendre, et nous engendre. Il l'engendre éternellement. Il nous engendre temporellement, c'est-à-dire dans le temps, mais pour l'éternité. Hein. Il l'engendre par nature, il nous engendre librement, par un acte de sa volonté. Hein. Dieu crée toujours, et Dieu crée toujours tous les enfants. C'est pas les parents qui font les enfants, qu'on vienne pas me dire ça. Ça n'a pas de sens. Comment peuvent-ils? Dieu crée constamment. Il nous maintient en vie. Il l'engendre par nature, son Fils Jésus. Il nous engendre librement par un acte de sa volonté. Dit Monseigneur Gay, mais lui et nous sommes fils. Par Jésus et en Jésus, l'Esprit Saint devient notre esprit à nous aussi. Jésus lui-même nous le donne. afin qu'ayant vivifié et dirigé le chef, il vivifie et dirige tous les membres, et qu'entre les membres et le chef, il n'y ait qu'un seul et même esprit, l'esprit divin du Père et du Fils. Et il dit cette parole, c'est tellement beau, c'est Monseigneur Gay toujours, Charles Gay. Ainsi, grâce à Jésus, à sa vie, à sa mort, les trois personnes divines habitent vraiment en nous. Tel est le mystère de vie que chaque fidèle justifié porte en soi et qui est le fondement de l'état chrétien. L'état dans lequel nous sommes comme chrétiens, c'est ça, c'est le fondement. Oui, elles habitent vraiment en nous. Alors de là la dignité de nos âmes de chrétiens. Monseigneur Gill l'explique très bien. Unie au corps du Christ, l'âme chrétienne devient une extension de la sainte humanité du Verbe et comme une humanité secondaire que Jésus daigne relier à la sienne. C'est beau ça, une humanité secondaire que Jésus daigne relier à la sienne. Et c'est pour ça qu'on dit que le chrétien est un autre Christ. Ça fait longtemps qu'on dit ça, 1700 ans. Il l'enrichit de la grâce sanctifiante, des vertus, des dons de l'Esprit-Saint. Et puis, il ajoute que l'âme chrétienne reste sujette, évidemment, à la concupiscence. C'est une triste conséquence de toutes nos fautes, mais elle peut toujours tenir cette concupiscence en respect, et par l'Esprit-Saint, il lui est donné de croître sans cesse dans le Christ Jésus, grâce aux œuvres saintes qu'il lui inspire, hein? En somme, la sainteté est en soi quelque chose de très simple, nous dit Monseigneur Gay. La sainteté, pour nous, c'est d'adhérer à Dieu, de manière à n'être plus avec lui, comme dit saint Paul, qu'un seul et même esprit. Et il ajoute, c'est bien, c'est beau ces paroles-là, Monseigneur Gay dit, c'est d'être tellement pénétré de sa grâce, rempli de sa vie, éclairé de sa lumière, épris de sa volonté, dépendant de sa conduite, conforme à ses pensées, assorti à ses goûts, entré dans ses affections, livré à ses droits, ouvert à ses dons, dévoué à ses intérêts, docile à ses bons plaisirs, qu'on soit comme possédé par lui et qu'on n'ait plus dès lors de vie propre et indépendante. Il ne faut pas exagérer, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Que tout dans notre vie devient, dans la liberté, la vie de Dieu. Cet état bienheureux, dit-il, fait qu'on vit non seulement sans péché, de propos pleinement délibérés, mais loin et comme à l'opposé du péché. C'est la vie du Christ en nous et notre vie dans le Christ, qui nous permet de dire avec saint Paul, « Vivre pour moi, c'est Jésus-Christ. » Et, toujours saint Paul, « Je vis, non plus moi, mais le Christ vit en moi. » Plus cette adhérence à Dieu, cette dépendance de Dieu, cette union avec Dieu sont parfaites, dit Monseigneur Gay, plus sainte aussi, et la créature, la sainteté n'est autre chose que, écoutez bien, que la complète simplification de l'âme, une âme simple. Être saint, c'est tout réduire à l'unité, comme l'enseigne si bien Teilhard de Chardin, c'est tout réduire à l'unité et s'y réduire soi-même. En bref, la sainteté, dit Monseigneur Gay, n'est qu'un oui plaigné et perpétuel. Que la créature dit à Dieu, un oui, il l'écrit O majuscule U majuscule I majuscule, un oui vivant dans lequel elle fait passer volontairement tout son être. Un oui fervent, actif, pratique, efficace. Un oui qui nous arrache et nous enlève à tout ce qui est en bas pour nous dévouer, nous consacrer, nous livrer comme une chose, une hostie d'amour et une proie à ce qui est en haut. C'est-à-dire, en définitive, au Très-Haut, au Christ, Fils de Dieu et vrai Dieu, dont l'Église chante après les anges, vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le Maître, le seul Très-Haut, Christ Jésus. Et c'est sous la conduite de l'Esprit-Saint, une communion incessante à cette parole de Jésus, aller vers le Père, et à cette parole de Marie, « Voilà, que tout soit fait selon votre parole. » Tout ça, ça résume la spiritualité de notre Sauveur Jésus qui nous a libérés, qui nous libère, et de sa très sainte Mère qui nous tient par la main, qui nous accompagne et qui nous regarde d'un regard si plein d'amour comme une mère qui veut sauver tous ses enfants. Si vous allez à la messe aujourd'hui dans le prion en église quotidien, vous trouverez la messe du lundi au début. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. C'était sans doute les paroles qu'aimait prononcer Monseigneur Charles Guay,